L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end et merci d'être là, comme chaque samedi 16h-18h sur BFM Business Radio, votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies et à l'économie numérique. Deux heures donc avec toute l'équipe de l'atelier qui est là, Lila Megraoua, Constance, Aurore, nous avons aussi Antoine Cyr. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Jean de Chambure sera avec nous depuis Shanghai tout à l'heure, mais aussi Nathalie Doré qui est d'ores et déjà de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de San Francisco. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Voilà, avec Nathalie tout à l'heure, on va parler dans le Silicon Valley de Smart City. Vous savez que c'est véritablement un sujet brûlant en ce moment aux US. Focus Startup aussi tout à l'heure avec un gros plan sur Senior at Home. Notre enquête de l'atelier, on va parler du bonheur au travail. Lila Megraoua en compagnie de nos invités. Notre web stratégie, un gros plan sur la web stratégie d'IKEA. Voilà, un petit constructeur de meubles hein, qui en vend pour quelques milliards chaque année. Notre passion selon Sanette. Alors là, franchement, la médecine sans médecin, Lila, est-ce possible? En tout cas, notre
on
invité tout à l'heure,
avec Guy Valencien.
Lui, il croit. Hein. C'est l'auteur d'un livre étonnant qui s'appelle justement « La médecine sans médecin, le numérique au service du malade ». Nous retrouvons notre French Tech Tour aussi tout à l'heure, notre dossier de l'atelier US. La rédaction de Zeronet.com sera là et le crash test d'Antoine tout à l'heure. Antoine.
Le crash test sera consacré à l'hyperloop.
À l'hyperloop.
L'hyperloop.
C'est pas une loop hyper puissante, hein.
Et non.
N'a rien à voir.
Et non, mais c'est vrai que c'était tentant quand même. Là, vous n'avez pas résisté.
Je préfère la faire dès maintenant.
Voilà,
comme ça,
on est débarrassé.
Comme on dit.
On en remettra quand même peut-être une petite louche et non pas une petite loupe voilà. Tout à l'heure.
Et on évoquera sans doute Elon Musk, qui est l'auteur de cette idée incroyable. Voilà, vous savez tout concernant cet atelier numérique. Merci de nous être fidèles et puis on salue tous ceux qui n'écoutent pas cette émission en direct mais qui sont peut-être en train de faire leur sport ou dans leur voiture et en train d'écouter le podcast de l'atelier. Vous êtes de plus en plus nombreux à le télécharger, vous faites bien. Allez, on commence par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Si nous commencions par Constance qui s'est fait quand même vraiment beaucoup absente ces dernières semaines. On est ravis de vous retrouver.
Je suis la nouvelle Leonardo DiCaprio. Voilà,
ah
The
voilà,
Revenant,
c'est
moi.
C'est vous donc.
Alors je vais vous parler d'ubérisation qui est partout, mais dans un nouveau domaine, la collecte de sang. Alors il y a une start-up américaine, Igbo, qui propose la mise à disposition de phlébotomistes. Pardon que je le prononce bien. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Constance?
Eh bien, les phlébotomistes, ce sont des professionnels de la santé qui pratiquent des incisions de veines. Donc en gros, voilà, ce sont ceux qui peuvent réaliser les prises de sang. Donc
voilà.
Pas d'autres incisions de veines.
On salue tous nos auditeurs qui sont en train de s'évanouir là, actuellement. Voilà, on pense à vous.
Miam.
Alors en fait, Igbo propose de rémunérer chacun de ses praticiens à chaque collecte de sang qui va être effectuée au domicile du patient. Ça permet au laboratoire, voilà, déjà de pas avoir une salle spécifique pour les prélèvements, donc d'avoir des coûts inférieurs. Puis aussi pour les patients qui n'ont pas envie de se rendre au laboratoire et de perdre du temps dans les transports, c'est directement le praticien qui vient chez eux, voilà, pour leur retirer leur sang. Alors en plus, il faut savoir qu'il y a plein de laboratoires qui ne proposent pas tout l'éventail de tests médicaux. Et là ensuite, le phlébotomiste peut déposer le prélèvement de sang au laboratoire qui correspond. Il faut savoir alors que c'est un marché très important parce que rien qu'aux États-Unis, tous les jours, il y a 4 millions de prélèvements de sanguins qui sont réalisés.
Tous les jours?
Tous les jours. Donc vous imaginez, si jamais on les facture, il y a une grosse manne financière. Alors l'application utilise aussi des SMS et des emails pour être sûr que les patients n'aient pas oublié leur rendez-vous, qu'il n'y ait pas de déplacement inutile. Et tous les praticiens sont bien sûr agréés aussi en termes de sécurité pour que ce soit pas le voisin d'à côté qui vienne s'amuser un petit peu, faire mumuse quoi, découvrir la médecine.
Voilà le phlébotomiste. Donc.
Voilà, et vous êtes... Igbo.
Voilà, parfait. Merci beaucoup Constance. Antoine, attention, c'est à vous Antoine.
Alors, est-ce que vous savez, quand il y a une nourriture un peu approximative, peut-être...
Une nourriture approximative.
Oui, une nourriture qui va vous intoxiquer, quoi.
Ah oui, donc elle est plus qu'approximative.
Elle est très... Voilà, oui, le terme approximatif,
oui,
je reconnais, était très approximatif.
Oui, c'est ça. Il est presque chaleureux pour ce genre de situation.
Par ailleurs. Donc, en fait, lorsque un aliment... Ça s'apprête à vous donner une intoxication alimentaire.
Juste avant.
Il est reconnaissable à ce que...
Parce qu'il est vert.
Là, si vous le mangez... Si vous le mangez, c'est que vous êtes vraiment pas dégourdi.
Oui.
Non, admettons qu'il ait un aspect presque normal.
D'accord.
Mais
qu'il renferme quelques petites
bactéries.
Des pathogènes.
Bactéries.
Voilà.
Eh bien, figurez-vous que, en ce cas, les bactéries s'agitent à la surface du dit aliment.
C'est-à-dire
que lorsqu'un aliment comporte des bactéries, eh bien la bactérie, c'est pas un truc statique, la bactérie.
Oui, elle fait
c'est
la fête tout le temps.
C'est pas un truc qui reste immobile.
Voilà.
C'est pas un truc là.
C'est pas un ectoplasme.
Non, la bactérie n'est pas un ectoplasme.
Alors,
et
voilà.
Elle déteste d'ailleurs.
Je pense que ça, c'est la phrase qu'on pourra retenir de ce numéro d'atelier.
Elle déteste qu'on la traite d'ectoplasme.
Et oui.
Donc, la bactérie n'est pas calme. La bactérie est agitée. La bactérie fait des choses incroyables à la surface des aliments. Et donc, bien sûr, c'est elle qui nous donnera une intoxication alimentaire.
Et oui, parce qu'elle s'agite aussi en nous. C'est
le problème. Le problème, c'est que la bactérie est petite. Elle est même très petite. Et donc, on ne peut pas la voir s'agiter à la surface des aliments. Sauf que un chercheur de l'Institut des sciences et technologies de Corée a trouvé une solution. Un laser qui est appliqué à la surface de la nourriture permet de détecter donc si ces fameuses bactéries sont là. Alors comment fait-on ? Eh bien, on filme la surface de la nourriture pendant quelques secondes à l'aide d'une caméra et là, on voit si des mouvements sont détectables avec le laser et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des bactéries. Voilà, donc l'équipe en question a testé ce procédé sur des différents poulets contaminés. Donc je vous voulais...
Ne rentrez pas dans les détails.
Non, je rentre pas dans les détails.
Ouais.
Et ils ont donc facilement réussi à identifier les aliments qui étaient touchés, voilà.
Parfait. Bah écoutez,
ça marche même à travers un film plastique.
En plus.
Parce que quand on a l'œil, on voit les bactéries s'activer derrière un film plastique.
Eh bien, dites-moi. Bon, Aurore, bon courage pour faire mieux. Là, parce que là, Antoine a mis la barre haute quand même.
En tout cas, j'espère que je vous ai pas coupé l'appétit.
Non, ça va.
Ça va. Moi, je vais vous parler d'une petite campagne de Tinder sympathique, donc une campagne honnête. Une campagne honnête.
D'accord.
Qui a été faite en partenariat avec Rock the Vote, et donc qui est une association pour encourager au vote citoyen aux États-Unis, et une entreprise un institut de sondage en ligne qui s'appelle Wedges. Alors, Tinder va vous permettre de trouver qui est le président de votre cœur aux États-Unis. C'est-à-dire que au lieu de chercher l'amour en swipant à droite à gauche, vous allez avoir face à vous les propositions de chacun des candidats. Vous allez dire oui, moi je suis plutôt pour le mariage gay, ou je ne suis pas pour telle ou telle augmentation. Et au final, vous allez avoir le droit à tous les candidats qui ont fait les mêmes choix que vous, en vous disant allez-y. Voter.
D'accord.
Donc, une petite
campagne.
Mais après,
on rencontre pas le candidat, quand même.
Non, faut pas déconner.
On dit pas faut pas déconner.
Pardon.
À la radio, on dit faut pas exagérer.
Excusez-moi.
Exactement. Attention. Nathalie, depuis San Francisco.
Oui, alors moi je voulais vous parler du Y Combinator, qui est un des célèbres incubateurs et accélérateurs de start-up dans la vallée, et ils viennent de clôturer leur saison hiver 2016. Alors ça sonne un peu comme les collections haute couture, mais ne nous y trompons pas, là il s'agit bien de start-up. Et après avoir passé une épreuve drastique de sélection, eh bien les jeunes pousses du monde entier viennent à San Francisco bénéficier d'un petit investissement de la part du Y, on parle de $120,000, mais surtout de multiples services pour une accélération pendant 3 mois en Silicon Valley. Alors, quelles pépites sont sorties de la saison hiver 2016 qui regroupait quand même 60 startups ? Pour éviter toute blague facile, parce que je vous connais, je ne vous parlerai pas du projet d'avion supersonique qui s'appelle Boom. Bon, je sais, c'était facile.
Oui, ça va.
Quand même, quelques mots sur Boom. La promesse de Boom est d'aller plus vite que le Concorde et de coûter un quart du prix. Donc c'est quand même intéressant, il faudra quand même la suivre. Autre start-up primée, Copia, dont la jeune et charismatique CEO ressort triomphalement de cette saison. Copia, c'est quoi ? C'est un peu le Uber du gaspillage. C'est une plateforme en fait qui reçoit de la nourriture de la part des entreprises et des restaurants, donc les restes, et redistribue au centre de sans-abri. Alors, Copia met ainsi à disposition ses camions, et vous pouvez d'ailleurs aller sur le site et devenir chauffeur. C'est pour ça qu'on fait aussi la comparaison avec Uber. Et ils opèrent aujourd'hui dans toute la baie de San Francisco. C'est donc une superbe innovation sociale qui en plus surfe sur sur une législation avantageuse aux États-Unis, puisqu'en fait, si les entreprises gaspillent leur nourriture, elles ont des grosses amendes.
Très bien, merci beaucoup Nathalie. Et on va terminer ce premier quart d'heure d'actu sur BFM Business dans cet atelier avec vous, Lilia Megraoua.
Oui, je vais vous parler d'une supérette scandinave assez étonnante qui a vu le jour.
Qui est ouverte le dimanche. C'est ça, donc c'est vrai que c'est quand même un breaking news.
Mais effectivement, elle est ouverte le dimanche.
Ouais.
Alors cette supérette Narafa est en fait localisée dans une ville, dans une région assez isolée, la ville de Viken, et en fait le principe. Le principe, c'est que cette supérette n'a pas de personnel. Donc, comment ça fonctionne?
Il n'y a personne à l'intérieur.
Non, il n'y a personne.
Et elle n'a pas de clients non plus.
Voilà. Si, elle a plein de clients.
Ça ne sert à rien.
Moi, je pense qu'il faudrait supprimer les gens.
Oui.
Et donc, comme ça, on serait vraiment tranquille. Entre robots.
Laissez parler Lila, Antoine.
De Dieu. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Et en fait, le principe, il suffit de s'enregistrer en tant que client sur l'application dédiée.
Oui.
Et en fait, à partir de votre application, vous allez scanner les courses que vous prenez. Et ensuite vous recevez une facture à la fin du mois répertoriant
de tous les produits que vous avez pris.
Tous les produits. Donc c'est quand même sacrément basé sur la confiance.
Sauf si évidemment il y a 48 caméras dans la
supérette. Il y a un peu 6 caméras de surveillance et il y a une alarme qui se déclenche si la porte reste ouverte plus de 8 secondes d'affilée.
Ah oui, c'est bon. Mais c'est pas mal, attendez, comme concept.
Mais c'est assez chouette. Donc si vous êtes du côté de la ville de Viken,
on peut tester.
Suède, vous pouvez tester. Mais sans rire, c'est plutôt sympa pour ceux qui habitent dans les régions isolées.
Évidemment. Merci beaucoup Lila Megraoua. Allez, on enchaîne maintenant avec notre vue d'Asie et c'est avec vous Jean de Chambure. Salut Jean.
Salut François.
Alors Jean, cette semaine, on va parler encore de Chine et de numérique. Forcément, comme chaque semaine. Et en ce samedi, nous allons parler de Xiaomi, qui est un grand constructeur de smartphones chinois.
Oui, François, tout à fait. C'est un concurrent. Il est dans le top 5 des fabricants de smartphones, de téléphones intelligents dans le monde. Pourquoi ? Puisqu'il a aujourd'hui une place, donc de 5e place. Il a vendu l'année dernière plus de 65 millions de smartphones. C'est pas mal. Hein. Il en visait encore un peu plus, entre 80 et 100 millions. Donc il est en 5e position, encore un petit peu loin derrière Huawei, qui est donc le premier, pour le coup, constructeur téléphone chinois, qui lui-même talonne Samsung, qui lui-même talonne Apple. Bon, c'est la course folle de les smartphones. Alors pourquoi est-ce que Xiaomi intéresse beaucoup les gens? En fait, il est valorisé, Xiaomi, notamment les investisseurs, il est valorisé 45 milliards de dollars. Beaucoup plus encore que Huawei, qui lui est valorisé aux alentours de 2 à 5 milliards de dollars, alors qu'il produit davantage de téléphones mobiles.
Ouais.
Pourquoi en fait? Parce que Xiaomi a une stratégie de diversification qui intéresse énormément les investisseurs. Il dit tout simplement ça, son fondateur Lei Jun, nous fabriquons des startups comme on fabrique des téléphones. Ah ben pourquoi pas? Alors ça paraît comme ça tout simple lorsqu'il dit ça, mais il y a vraiment une stratégie derrière très intéressante. Ils ont en fait investi dans plus de 55 entreprises, dont 29 de ces entreprises ont été vraiment créées depuis le départ, hein, avec la marque, l'organisation, le positionnement. Donc c'est vraiment des créateurs de start-up. Il y a 170 collaborateurs au sein de Xiaomi qui s'occupent de ça. Et alors ça va des bracelets connectés à des purificateurs d'air, ce qu'on appelle l'Internet Finance en Chine, donc tout des tas de services financiers proposés sur Internet. De le domaine de la e-santé, ils ont aussi lancé un NMVO, donc une sorte d'opérateur de téléphonie virtuelle qu'on peut avoir en même temps qu'on s'abonne. Enfin, vous voyez, il y a des tas de nouveautés. Et alors là, ce qui a été annoncé cette semaine à Pékin, c'est à la fois un gadget, mais c'est vraiment une stratégie. La stratégie, c'est, je vous parlerai du gadget après, la stratégie, c'est d'aller beaucoup plus encore dans le domaine de la maison connectée. Donc, ils ont leur marque, vous savez, qui est Xiaomi, ça veut dire en chinois, c'est le petit riz. C'est Mifa en chinois, le riz, donc Xiaomi, c'est le petit riz,
le
grain de millet.
D'accord.
Et donc, ils ont lancé maintenant une marque, vous allez voir, tout à fait logique, qui est Mijia. Mijia, c'est le riz de la maison. Donc, c'est pour la maison connectée, le riz de la maison, Mijia. Et derrière ça, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notamment, alors pour le lancement, quelque chose d'assez amusant, qui est un smartphone qui vous permet, en fait, de contrôler à distance la cuisson de votre riz. Vous savez qu'en Chine, évidemment, le riz, vous n'avez pas une maison qui existe, un foyer qui existe sans qu'il y ait un cuiseur de riz, c'est comme les pâtes en Italie, c'est comme le fromage en France, hein, je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout. Et il y a des tas de variétés. Donc en fait, comment ça marche? Vous avez un code barre qui est sur votre sachet de riz, hein, il y a en gros jusqu'à 200 d'autres types de sachets de riz différents. Mm-hmm. Et en fonction de ce code barre, vous allez obtenir la bonne cuisson qu'il faut contrôler.
D'accord.
Vous allez pouvoir contrôler ça grâce à votre smartphone. Donc c'est assez amusant.
C'est génial. C'est le cuiseur de riz connecté.
Exactement. Mm-hmm.
Bah écoutez, bravo Jean. Alors là, franchement, ça nous ouvre presque l'appétit. Bon, c'est pas tout à fait l'heure, mais c'est pas mal. Merci.
Vous êtes invité cordialement.
Ah bah écoutez, quand vous voulez. Oui, oui, oui. Et quand vous revenez à Paris, apportez-nous un petit peu de riz. Ça peut être sympa.
Je n'y manquerai pas.
Jean de Chambure depuis Shanghai pour ce Vue d'Asie. Et vous restez avec nous, la suite de l'atelier dans un instant. Silicon Carnet, Cyber Gadget. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Les trouvailles gadgets d'Antoine Cyr arrivent, les amis. Vous allez les retrouver dans un instant dans cet atelier numérique sur BFM Business. Mais auparavant, Nathalie Doré nous a rejoint. Rebonjour Nathalie.
Bonjour François.
De l'atelier US, vous le savez, Nathalie est à San Francisco. Alors cette semaine, vous allez nous parler de Smart City, Nathalie. Alors qu'est-ce qui se passe aux États-Unis sur ce sujet des villes intelligentes? Ça bouge?
Oui, ça bouge beaucoup parce qu'on arrive à un point en fait où le sujet devient vraiment brûlant, je dirais. On arrive en effet à un moment où les modèles de ville, tels qu'ils ont été pensés au siècle dernier, eh bien ne pourront pas traverser les challenges à venir. Du coup, les villes doivent se transformer tout en s'appuyant, et c'est le cas aux États-Unis, sur un legacy très lourd. On n'est pas du tout sur le concept qu'on peut voir d'ailleurs dans les villes émergentes, où on part de zéro. Mm-hmm. C'est facile, on fait pousser ces villes from scratch. Et bien là, il faut faire évoluer des villes existantes.
Et pourquoi c'est un sujet si brûlant alors, Nathalie?
Alors, c'est un sujet brûlant parce qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a un accroissement de la population. En 2050, plus de 65% de la population mondiale vivra en ville sur à peine 2% de la surface du globe. Et cette concentration urbaine, eh bien, elle se vérifie aussi aux États-Unis. Un Américain sur trois habite l'une des plus grosses villes du pays, et cela va s'amplifier. Alors, si on prend un chiffre assez rigolo, mais très marquant, chaque heure, 10 nouvelles personnes emménagent à New York, qui est l'une des trois grosses villes. Alors, ensuite, il y a un deuxième facteur qui est le problème des ressources, l'eau, l'alimentation. Pour faire face à cette population qui s'accroît, eh bien, il faut repenser la manière de consommer les ressources. C'est ainsi qu'on voit beaucoup de solutions apparaître autour de l'alimentation et de l'agriculture. Alors, au-delà du burger sans viande, que nous avons d'ailleurs testé chez Impossible Food ici aux US, il s'agit de limiter le gaspillage et d'optimiser les ressources.
Bon, je vous poserai une question à la fin, vous me direz ce que ça vaut ce burger sans viande quand même. Mais Nathalie, il y a aussi le problème des transports hein, dans cette ville intelligente.
Oui, c'est vrai et c'est lié d'ailleurs aux facteurs de la population. Alors aujourd'hui, les villes américaines doivent faire face à une équation très compliquée. Il y a plus en plus de monde, donc plus d'embouteillages, car en plus les Américains sont très voitures, comme vous savez, oui. Dans une infrastructure vieillissante, que ce soit l'état des routes ou l'état des transports publics, et où les Américains aux revenus modestes doivent s'éloigner de plus en plus de leur lieu de travail car l'immobilier flambe. Alors voilà, l'équation elle est quand même pas facile, et le facteur finalement le plus important à ne pas oublier quand on pense la ville intelligente, eh bien c'est la qualité de vie des habitants, quel que soit leur niveau social.
Où est-ce qu'on en est concernant ces projets de Smart City, Nathalie?
Alors déjà, du point de vue de l'État, il y a un projet du gouvernement. Le président Obama avait annoncé en septembre dernier son initiative Smart Cities, qui prévoit 160 millions de dollars investis dans la recherche, mais aussi dans l'utilisation des nouvelles technologies. Mmh. Et ils ont clairement besoin de progresser. D'ailleurs, un rapport de Bloomberg Philanthropy révélait récemment que seuls 28% des villes américaines de taille moyenne adaptent leur programme en fonction de l'analyse des données qu'elles collectent. Alors voilà, c'est là qu'on arrive au sujet clé, l'humain. Car c'est par lui que souvent on collecte la data, et c'est pour lui souvent qu'on l'analyse. Alors après les avoir un peu oubliés, les hommes et les citoyens reviennent du coup au centre de plusieurs initiatives.
Alors en plus de l'État, que font justement ces acteurs privés dans ces chantiers Smart City?
Alors ils arrivent tous, je dirais, un peu avec la même ambition de amener une certaine innovation urbaine. Alors par exemple, Sidewalk Lab, qui est une spin-off de Google, appelée maintenant Alphabet, crée des entreprises en partenariat avec des entrepreneurs. Autre exemple de projet, et là c'est plutôt à New York que ça se passe, le East River Skyway est une sorte de télécabine des villes. Alors, on les connaissait, nous, à la montagne en tant que Français. Eh bien, ils ont beaucoup d'atouts aussi pour conquérir les villes. Très rapides, écologiques, intégrées, ces télécabines peuvent contenir jusqu'à 35 personnes. Et à New York, des études ont montré qu'en moins moins d'une demi-heure, on allait pouvoir rejoindre Brooklyn à Manhattan dans un transport vraiment intéressant. Donc on parle bien de qualité de vie dans ces villes intelligentes.
Parfait, merci beaucoup Nathalie. Alors ce burger sans viande, sincèrement entre nous. Hein.
Bien moi qui aime beaucoup la viande quand même, je l'ai trouvé très bon.
C'est vrai ? Ah ouais.
Ouais,
d'accord. Eh bien voilà, à tester la prochaine fois que vous irez à San Francisco. Nathalie Doré, merci. Et place donc à notre sélection de gadgets de cette semaine avec le seul, l'unique, le vrai Antoine Cyr. Antoine, qu'est-ce que vous avez pour nous cette semaine ?
Écoutez, une nouvelle qui vraiment me réjouit énormément.
Donc, parce que vous êtes en face de moi,
voilà,
ça vous réjouit.
Ça me réjouit, tout
bien
à fait.
Sûr.
Voilà. C'est la fin de la tyrannie de la lessive quotidienne qui s'approche et que l'on peut voir poindre avec le gadget dont je vais vous parler aujourd'hui.
C'était une belle introduction.
Vous allez pouvoir bientôt nettoyer vos vêtements, tous les vêtements d'ailleurs, avec de la lumière. En fait, on va même pouvoir, d'une certaine manière, installer ses vêtements sales au soleil et les laisser se nettoyer tout seuls. Alors, je vous explique. Ce sont des chercheurs de l'université australienne RMIT. Voilà, parce que si vous le
attention.
Oui, parce que si vous le prononcez à la française, oui, R, donc MIT, vous voyez,
et
les
voilà,
gars,
d'accord.
Et voilà. Et puis, accessoirement, si vous le prononcez à la française, ça fait ermite. Donc, ça, ça fait quand même moins envie.
Ça fait plus grenouille.
Voilà, plus aussi. non, c'est bien, ermite, la grenouille, fallait vraiment.
Elle est pour moi, ça,
elle
là,
est
Antoine.
Pour vous,
je vous l'offre.
Bon.
Je vous l'offre. Bah, Antoine, comment ça marche?
Alors donc on a nos chercheurs australiens qui ont développé des nanostructures à base de cuivre ou d'argent qu'ils intègrent au textile. Quand les nanostructures sont confrontées à la lumière artificielle ou naturelle, elles reçoivent de l'énergie qui crée des électrons chauds. Et que fait-il l'électron chaud ? Eh bien, il
l'électron chaud.
L'électron chaud.
D'accord.
Donc l'électron chaud, eh bien, il fait comme jadis l'enzyme glouton.
C'est pas vrai.
Mais
celui de Coluche.
Mais pas.
Bah, il prend avec ses petits bras musclés là, la
voilà,
santé.
Voilà. Oui, mais ça c'est parce que vous avez connu Coluche, mais moi j'ai connu les pubs pour l'enzyme glouton avant Coluche.
Ah bah oui.
Et
vrai.
Oui. Voilà. Et donc
la lumière au contact de ces métaux
voilà.
dans le tissu,
les électrons chauds détruisent la matière
Tiens.
Organique,
ah
donc
oui.
la saleté et les taches. Et donc certains vêtements améliorés par cette technique ont pu se nettoyer spontanément en moins de 6 minutes. Alors évidemment, l'objectif aujourd'hui est d'appliquer ce procédé à l'échelle industrielle et de trouver comment attacher ces nanostructures de manière permanente au tissu, parce que les nanostructures sont coquines et elles ont tendance à se défiler quand même pour l'instant. Et peut-être aussi s'il vous prend quand même de laver votre vêtement à un moment normalement, je pense que là la nanostructure elle est morte quoi, voilà. Donc il y a encore un petit peu de travail. Il faut quand même savoir que ce procédé peut s'appliquer à d'autres domaines comme l'agrochimie ou l'industrie pharmaceutique qui utilise la catalyse, c'est-à-dire un tout élément qui accélère ou ralentit une réaction chimique sans se modifier lui-même.
D'accord. Bon, pour l'instant, c'est encore. On peut pas acheter ça. C'est encore en prototype, Antoine. On est d'accord.
Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans le.
Mais c'est intéressant.
On est tout à fait.
On revient dans un instant. Merci beaucoup, Antoine. On se retrouve tout à l'heure pour la fin de cet atelier pour le crash test. Vous restez là. On va retrouver notre focus startup et puis notre enquête de l'atelier dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Nous sommes de retour à l'atelier numérique sur BFM Business comme chaque samedi, 16h-18h, vous le savez. Tout à l'heure, nous retrouverons notre web stratégie. On va s'intéresser à un géant du meuble. Hein. Ça sera IKEA France qui repense sa stratégie digitale. On en parle dans quelques minutes. On évoquera aussi la médecine sans médecin. Alors ça, c'est les prédictions d'un intervenant passionnant qu'on va retrouver tout à l'heure, Guy Valencien, qui est membre de l'Académie nationale de médecine et qui est auteur de la médecine sans médecin, justement, le numérique au service du malade. Ça sera dans une petite demi-heure. Avant de retrouver notre enquête de l'atelier, place à notre focus startup et avec vous, Aurore Géraud, nous allons découvrir Senior at Home.
Alors, pour le focus startup de cette semaine, nous sommes avec une pépite montpelliéraine et avec moi Frédéric Lavandier, qui est fondateur et président de Senior Home. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Alors, Frédéric, pouvez-vous nous dire ce qu'est Senior Home ?
Alors, Senior Home est une startup qui a été créée il y a 2 ans et qui travaille sur le maintien à domicile des personnes âgées. ingénieur informatique, j'avais créé des sociétés informatiques et j'ai une maman qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce projet. Alors ce projet, c'est maintenir les personnes à domicile sans contrainte, donc en utilisant des objets connectés et en particulier des capteurs qu'on met dans la maison, des capteurs de mouvement, des capteurs d'ouverture, etc. C'est de pouvoir suivre l'activité des personnes pour en développer des services. Donc le premier service qui vient naturellement, c'est la chute, détecter automatiquement une chute, mais pas que, parce que le besoin d'information, de communication, de lien social est important, donc on informe la famille en temps réel sur l'activité de la personne, et également toutes les personnes qui en ont la prise en charge, donc les professionnels.
Je crois que vous disiez que le but aussi, c'était de détecter les comportements anormaux.
Alors, effectivement, la base de notre projet était de concevoir un outil d'intelligence artificielle qui permet d'analyser le comportement des personnes et donc de détecter les changements de comportement. La personne âgée a une autonomie qui baisse, donc obligatoirement, son comportement va changer dans le temps. Donc, le but est de le détecter au plus tôt pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible.
Et comment vous détectez un changement de comportement ?
Alors, il y a des changements de comportement simples, par exemple lever, un lever tardif, mais notre système permet aussi d'analyser les temps de prise de repas, les temps de toilette, les sorties, les siestes, etc. Et tous ces éléments peuvent être analysés et donc le changement de comportement mis en évidence.
Vous proposez un projet qui s'appelle Waterbrain. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, l'idée est venue quand nous avons vu les compteurs connectés qui équipaient l'agglomération de la métropole de Montpellier en particulier. C'est-à-dire que ces compteurs connectés permettent de remonter la consommation d'eau de manière très fréquente. Et l'idée, c'était d'adapter notre dispositif uniquement avec la consommation d'eau. Alors, cette consommation d'eau est analysée dans le temps, 24 heures sur 24, et donc permet de détecter un certain nombre d'anomalies. S'il n'y a plus du tout de consommation d'eau, c'est peut-être qu'il y a une chute. S'il y a une consommation moindre ou une consommation excessive, ça veut aussi dire un certain nombre de choses. Donc le but est d'analyser tous ces événements qui remontent afin d'en offrir les mêmes services que l'on fait avec notre dispositif.
Donc on détecte ces fameux comportements anormaux en fonction de la consommation d'eau.
Alors c'est les changements dans le temps qui vont nous donner effectivement les difficultés que rencontre la personne. On a travaillé sur les données qui étaient déjà remontées et nous sommes aperçus, on arrive à détecter, de savoir si c'est une personne âgée ou une personne fragile qui vit dans un domicile. Et à l'aide de ces aimants-là, on pourrait informer les services sociaux, par exemple, quand dans les périodes de canicule, que telle personne a une consommation qui est trop faible ou pas de consommation du tout.
C'est un très joli projet. Qu'est-ce que vous attendez du futur ?
C'est de développer donc cet ensemble de services et de les proposer à un maximum de collectivités, parce que c'est vrai que comme les compteurs d'eau sont installés, il n'y a pas de coût d'équipement et donc on pourrait proposer un certain nombre de services pour quelques euros par mois.
Aurore, merci. Et place maintenant à notre enquête de l'atelier avec Lila Megraoua et nos invités. On va parler du bonheur au travail. Alors nous, bon, c'est quelque chose qu'on vit toutes les semaines, donc il n'y a pas de souci.
C'est ça, on a la chance d'avoir un métier excessivement enrichissant.
Qui nous donne beaucoup de bonheur.
C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Donc, au lieu de parler de burn-out, de maladie du numérique, comme on a pu s'en faire l'écho
de temps en temps,
on va parler de bonheur au travail avec deux, vous verrez, spécialistes. Édouard Mandelkern, bonjour.
Bonjour.
Alors, Édouard Mandelkern, vous êtes PDG de Davidson Consulting. Et Alexandre Pachulski, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Pachulski, vous êtes cofondateur de Talentsoft. Alors je disais spécialiste, puisque Davidson Consulting a reçu pour la troisième fois, je crois, troisième fois cette année, le titre, la première place du palmarès Great Place to Work, meilleur endroit pour travailler. Et Alexandre Pachulski, vous permettez de gérer au mieux, de repérer, de rendre heureux les talents. Alors on va découvrir ça avec vous. Alors, je vais d'abord commençons par une définition. C'est quoi selon vous le bonheur au travail? Comment on définit comment vous définiriez ça, Alexandre?
Moi je définirais ça en fait assez simplement comme un alignement entre les aspirations de la personne, ce qu'elle souhaite faire, ce en quoi elle souhaite contribuer dans la société en général et dans une entreprise en particulier, et la rencontre de ces aspirations, la rencontre aussi des compétences de la personne, ce qu'elle est en capacité à faire, avec les besoins de la société en général et de l'entreprise en particulier. Et quand cet alignement est réalisé, à ce moment-là, ça provoque cette chose un peu magique qui est une sorte de bonheur au travail.
Édouard Mandelkern, est-ce que c'est une définition que vous partagez chez Davidson Consulting? Qu'est-ce qui fait de votre lieu un lieu fantastique pour travailler, pour reprendre le nom du palmarès?
Peut-être que l'ambition est trop importante. Bonheur au travail, bon là il y a une dimension affective, personnelle, mmh. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, le rôle, selon nous... du management de l'entreprise, c'est de faire en sorte de mettre en situation les gens de façon optimale pour mmh. qu'ils puissent faire leur travail sereinement, en étant à l'aise sur le sens que l'on essaye de donner aussi à l'activité de l'entreprise.
Bien sûr. Vous Alexandre Pachulski, en discutant avant l'émission, vous... En parlant de bonheur en travail, vous évoquiez la notion d'économie à l'envie.
D'économie de l'envie, ouais.
Économie de l'envie, pardon.
C'est une façon d'expliquer qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas uniquement dans une problématique humaniste, puisque je suis pas certain que sinon toutes les entreprises parleraient tant de bonheur, et je vous rejoins, de satisfaction, de motivation, d'engagement. On est sur une problématique aussi économique, où les entreprises ont compris aujourd'hui que pour arriver à être performante, pour arriver à être innovante, il fallait manager l'envie des collaborateurs. C'est-à-dire, je reviens sur cette notion d'aspiration. Si finalement vous ne prenez pas en compte ce que les gens ont envie de faire, ils ne peuvent évidemment pas contribuer positivement, et ils ne peuvent pas être dans une situation où ils vont résoudre les multitudes de problèmes de plus en plus complexes qu'ils ont à résoudre. Et donc cette économie de l'envie, c'est simplement une attention permanente, particulière, qui va être portée aux collaborateurs, parce qu'on comprend que ça a un intérêt pour la santé de l'entreprise en elle-même, au-delà de la partie humaniste qui concerne les gens.
Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que vous allez être davantage à l'écoute de vos collaborateurs et les faire évoluer en fonction de leurs aspirations? Comment on gère ça à la fois au quotidien et sur le long terme? Si j'ai tant de personnes qui souhaitent évoluer vers davantage de tâches, je sais pas, vers le marketing par exemple, et que je vais en avoir besoin sur d'autres secteurs, qu'est-ce qui se passe?
Nous, au sein de Talentsoft, ce qu'on propose en tout cas, c'est de proposer un logiciel qui aide à organiser les choses. Le logiciel, il travaille essentiellement dans le domaine des ressources humaines, sur tous les sujets, évaluation, recrutement, formation et autres. Et l'enjeu, c'est justement, grâce à ce logiciel, de permettre aux ressources humaines d'identifier d'un côté les envies et d'identifier les besoins. Et évidemment, parfois, l'offre et la demande ne coïncident pas. Donc tout l'enjeu, c'est d'être capable de voir les personnes qui répondront au mieux aux besoins de l'entreprise et d'être capable de revenir vers les autres pour leur dire que cette fois-ci, peut-être qu'ils n'ont pas été, entre guillemets, choisis pour une opportunité, mais c'est de comprendre comment ils vont pouvoir développer et évoluer au sein de l'entreprise pour que la prochaine fois, peut-être, ils puissent prendre l'initiative qu'ils avaient envie de prendre à leur compte. Et donc, c'est d'organiser justement la rencontre entre ces besoins et les envies. On aide à ça, nous.
Chez Édouard Mandelkern, chez Davidson Consulting, vous insistiez beaucoup sur l'esprit derrière, à savoir que c'est un esprit à instaurer, à savoir que les dirigeants, les managers vont être accessibles. Vous allez tout faire pour inciter au dialogue, engager au dialogue, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que chez nous, comme partout ailleurs, il y a des sujets, des problèmes, des questions, des critiques qui peuvent s'exprimer. Et je pense que la le réflexe classique d'un management quel qu'il soit, ça serait plutôt de les mettre sous le tapis, d'éviter d'avoir des embêtements à gérer, mais plutôt de faire du développement ou autre. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est l'inverse. Non pas de créer des problèmes, mais en tout cas de susciter leur expression pour qu'on puisse les traiter à la racine. Avant que l'abcès ne gonfle, c'est plus facile de traiter un problème. Alors on le fait avec talent ou pas de talent, ça c'est...
Ça peut être quel type de problème, par exemple, pour qu'on on comprenne.
Je pense au sujet qui est très important ici en Île-de-France. Nous, on est un peu partout en France, mais globalement, en Île-de-France, il y a un problème, vous le savez, de coût du logement, en particulier pour les jeunes diplômés. On en embauche beaucoup. C'est à peu près un tiers de nos embauches. Et vous savez que nous, on a, vous savez ou vous ne savez pas, mais en tout cas, nous, chez Davidson, on a essayé à notre petite échelle, avec nos moyens, d'y répondre pour quelques salariés que l'on loge au sein d'un campus. C'est un investissement pour nous qui a été important, mais qui a, on a voulu non seulement les aider eux, mais aussi envoyer un message, un peu renvoyer l'ascenseur par rapport à la réussite que nos consultants, nos salariés ont permis à Davidson d'avoir.
Quels sont les pays qui sont en avance justement concernant cette vision du bien-être des salariés dans l'entreprise? Alors automatiquement on pense aux USA, à la Silicon Valley avec voilà, ces campus, ces start-up ou même grosses sociétés qui ont des baby-foot partout, des consoles de jeux et des cafétérias à tous les étages. C'est quoi? C'est presque... C'est ça ou pas? Ça vient de là-bas?
Alors, moi, juste, je pense que il y a toujours l'archétype de la Silicon Valley. Je hoche la tête, effectivement, parce qu'on pense au baby-foot, la table de ping-pong et au coiffeur.
Oui, c'est presque la caricature maintenant.
Mais en réalité, quand on regarde, il y a eu un classement qui est sorti ce week-end sur les pays les plus heureux. Alors, le Danemark arrivait en tête. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, qui travaille pas mal avec les pays nordiques, il y a une chose qui est intéressante dans les pays nordiques, c'est que c'est un peu l'inverse en France, côté RH, où on a beaucoup centralisé les choses. Là, c'est très décentralisé et on laisse beaucoup d'autonomie. Il y a beaucoup de prise d'initiative. Et c'est fait dans un environnement global où on respecte un peu le cadre de vie de la personne et on est moins là à contraindre la personne par rapport à un rythme d'entreprise. Mais il y a plutôt une entreprise qui va essayer de tâcher de s'adapter au rythme naturel de la culture,
d'accord,
du pays.
Ça peut être par exemple le télétravail? Alors, par exemple,
exactement le télétravail. C'est aussi tout à fait vrai dans des pays où il y a beaucoup de kilomètres à faire et où naturellement on envisage moins le fait de travailler comme d'être présent au bureau. Donc on revient là-dessus. Donc moi je vois en tout cas dans les pays nordiques une qualité de vie assez naturelle. Et c'est vrai qu'en France, en l'occurrence, on n'est pas forcément les mieux lotis là-dessus parce qu'on a beaucoup d'archétypes et de présupposés autour du travail. Et il faut un peu s'y conformer. Et se conformer à des prérequis qui sont plus tout à fait en ligne avec les attentes individuelles, les attentes de la société, en l'occurrence, ce décalage, il génère pas du bonheur.
Donc vous m'avez pas répondu concernant les US. C'est bullshit, tout ça?
Edouard Mandelkern.
Non, je pense pas que ce soit bullshit. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de reprendre de positif par rapport aux anglo-saxons ou à la Silicon Valley, c'est l'idée de partir de la personne, pas trop du CV, pas trop de l'âge non plus, mais du potentiel. On a chez nous une personne qui est arrivée il y a 2 ans, qui a 28 ans, qui est déjà associée de l'entreprise. Bon, on essaye de faire en sorte que ce soit pas juste, disons, une évolution avec un moule pour chacun d'évolution. Non, on essaye de partir de la personne, de son potentiel.
Et ce que les États-Unis ont de très très bien, et ce que nous on essaye de reprendre, et c'est particulièrement pertinent dans le domaine logiciel, c'est le droit à l'erreur. Le fait de souffrir au travail vient aussi souvent du regard des autres et du regard que on va se voir porter sur la qualité de ce qu'on a fait, les résultats qu'on a obtenus. Ce qui est intéressant avec les anglo-saxons, c'est que, et en l'occurrence dans la Silicon Valley, on peut tenter, échouer, mais ça n'est pas vu négativement, c'est vu comme une expérience qui va permettre de grandir. Et rien que ça, on peut évidemment largement s'en inspirer, en l'occurrence en France, puisque le rapport à l'échec est vu totalement différent. Donc ça libère vraiment les gens et ça les pousse à tenter plus de choses. Et tenter des choses, ça contribue aussi au bonheur en entreprise.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci beaucoup à tous les deux, je rappelle. Edouard Mandelkern, merci. Vous êtes PDG de Davidson Consulting et Alexandre Pachulski, vous êtes cofondateur de Talentsoft. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et on revient dans un instant à la suite de cet atelier. Avec notre web stratégie, on va s'intéresser à IKEA dans un instant. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, il y a un sujet qui nous passionne, vous le savez, c'est la médecine et le numérique. Ça tombe bien, on va en parler dans notre passion selon Sanet, ça sera dans quelques minutes sur BFM Business dans cet atelier, mais auparavant notre web stratégie. Et avec vous Lila Megrawa, on va s'intéresser cette semaine à la stratégie digitale d'un géant du meuble puisqu'il s'agit d'IKEA.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la stratégie et transformation digitale d'IKEA France. Pierre Villeneuve et Damien Dahut, bonjour.
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 Pierre Villeneuve, vous êtes directeur de la relation client d'IKEA France. Et Damien Dahut, vous êtes directeur e-commerce France. Alors, IKEA, c'est un peu le pionnier de l'expérience achat en magasin. Vous êtes tout particulièrement distingué par l'efficacité de votre modèle, notamment de cash and carry. Et vous avez fait plutôt récemment évoluer ce modèle en le diversifiant. Alors aujourd'hui, quoi ressemble aujourd'hui l'expérience client en magasin chez IKEA?
Alors l'expérience client chez IKEA, elle débute tout d'abord à la maison. Elle débute à la maison lorsque nos clients formulent un besoin. J'ai besoin d'une nouvelle cuisine, j'ai besoin d'un canapé. Donc cette expérience, elle va commencer par le biais du web, où le client, sur notre site, va effectivement consulter les articles, regarder leurs caractéristiques, étudier leur prix, puis peut éventuellement établir sa liste d'achats qui va lui permettre de préparer donc ses achats en magasin. Aujourd'hui, 70% de nos clients préparent leur visite sur le web avant de venir dans nos magasins. En magasin, effectivement, cette expérience, elle peut aussi se poursuivre par différents outils et services qu'on leur propose de plus en plus. Et elle se finit également à la maison, puisque le client peut également s'adresser à nos conseillers, à notre service client, par le biais également du téléphone, mais aussi des outils digitaux tels que les réseaux sociaux ou autres services que nous mettons à leur disposition. Donc l'expérience client en magasin n'est qu'une partie de l'expérience client totale. Et c'est sur cette expérience totale qu'effectivement nous souhaitons porter nos efforts.
On a notamment votre PDG qui a annoncé dernièrement la possibilité de scanner très prochainement soi-même tout son chariot d'un bloc. Est-ce que ça va être une réalité en France prochainement?
Alors ce que nous testons en France sur le magasin de Lille, et nous le testons avec nos clients, avec un large panel de clients, c'est la possibilité effectivement pour nos clients qui auront composé leur liste d'achat préalablement sur leur smartphone depuis leur domicile, en magasin, de, au fur et à mesure qu'ils prennent leurs articles et le mettent dans leur chariot, effectivement de le scanner pour payer l'ensemble du chariot d'un bloc en ligne de caisse. Donc effectivement, nous utilisons le digital afin de faciliter la vie de nos clients dans leur expérience en magasin pour leur laisser la liberté de leur temps.
Est-ce que vous vous intéressez au paiement sans contact également chez IKEA?
Alors IKEA était un des précurseurs en France du paiement sans contact. Et aujourd'hui, en termes de paiement sans contact, IKEA était une des enseignes où la part de paiement justement via le sans contact est une des plus élevées. Donc c'est vraiment une méthode de paiement qui nous intéresse au plus au chef, et nous étions aussi l'un des premiers distributeurs à utiliser le paiement via son smartphone.
L'expérience client en magasin, mais également l'expérience client en ligne a également évolué. En 2015, vous avez dépassé le milliard d'euros à l'échelle mondiale sur la vente en ligne. Vous êtes également ouvert au click and collect, notamment avec l'ouverture de Cup Store. Est-ce que pareil, ça devrait se généraliser? Quels sont les premiers résultats, Damien Dahut?
En effet, avec près de 140 millions de visiteurs annuels, notre site IKEA.fr est l'un des plus fréquentés en France. Et il nous permet d'interagir avec nos clients et de préparer la visite en magasin à travers plusieurs outils, les outils de planification, avec près de 500 000 connexions par mois sur ces outils de planification qui permettent de mettre en perspective les pièces que l'on a à la maison en les meublant avec des produits IKEA. Aussi, la possibilité de consulter les stocks et la disponibilité des stocks en magasin. Et puis, en effet, récemment, on a développé dans l'ensemble de nos parcs de magasins le service Cliquer et Emporter qui permet de faire sa commande en ligne et puis de retirer ses produits directement en point de vente physique proche de ses choix.
Et est-ce que la prochaine étape, ce serait pas à l'instar du pick-up store qui est installé à Saint-Lazare à Paris, de la Poste? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer des containers en centre-ville IKEA? Est-ce que vous y réfléchissez, Pierre?
Alors je dirais l'ambition de IKEA est avant tout d'améliorer le quotidien du plus grand nombre à la maison. Et effectivement, pour cela, nous avons développé une offre de meubles et d'accessoires de décoration que nous souhaitons rendre accessible au plus grand nombre. Pour qu'elle soit accessible, bien évidemment, nous avons nos canaux historiques qui sont les magasins, auxquels s'est ajouté le e-commerce, puis plus récemment, le click and emporter dans l'ensemble de nos magasins. Notre ambition est vraiment d'être accessible à 100% des Français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce que nous faisons déjà par l'intermédiaire effectivement du site IKEA France et de son site marchand. Et bien sûr, nous développons en permanence, nous essayons en permanence de nouvelles solutions pour aller plus loin vers cette accessibilité. Donc si je prends un exemple, le magasin de Lille, nous allons y déployer dans le courant du printemps un test de casier dans lequel le client pourra récupérer directement la commande qu'il aura effectuée. Nous allons également déployer en pilote sur le magasin de Villiers un système de cliquer-rouler. Donc tout comme le cliquer-emporter, vous aurez composé votre liste d'achat au préalable. Mais plutôt que de le récupérer dans le magasin, vous récupérez votre chariot.
C'est du drive.
Oui, mais vous aurez récupéré votre chariot directement rempli dans la camionnette. Donc vous montez dans votre camionnette auquel vous accéderez par un service digitalisé et vous pourrez partir directement chez vous. Donc vous voyez, effectivement, nous développons en permanence de nouvelles façons ou testons pour être toujours de plus accessibles à nos clients.
Étonnant. Un autre point assez étonnant de votre transformation digitale, c'est l'utilisation du big data. Alors, vous utilisez notamment le big data pour designer, pour la création de vos produits. Damien ?
Créer la relation et l'interaction avec nos clients est évidemment une de nos priorités. Donc, on utilise régulièrement le retour d'expérience de nos clients pour améliorer les solutions qu'on leur propose. Et toujours dans notre ambition d'améliorer le quotidien du plus grand nombre et de proposer aussi une expérience unique, on va développer dans les prochains mois un système de partage et d'interaction avec nos clients. Ils vont pouvoir qualifier sur un certain nombre de critères, à savoir la forme des produits, la couleur, le prix, qualifier l'expérience qu'ils en ont. Et de notre côté, on va pouvoir s'en servir justement pour remonter ces informations et en tenir compte pour les futurs développements.
Donc ça, cette expérimentation-là va avoir lieu en ligne ?
Tout à fait. C'est un système d'avis partagés que l'on va proposer directement sur notre site IKEA.fr dans les prochains mois, de manière à venir enrichir encore une fois l'interaction, la relation avec notre communauté de fans qui est importante, qui est à hauteur de 6 millions aujourd'hui de membres IKEA Family, et qu'on essaye de chouchouter évidemment en développant l'interaction qu'on peut avoir avec eux au quotidien.
Eh bien, merci beaucoup Damien Dahup. Je rappelle, vous êtes directeur e-commerce d'IKEA France, et Pierre Villeneuve, merci. Vous êtes directeur de la relation client IKEA France. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup Lila. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre passion selon Sanette. On va parler médecine et numérique. À tout de suite.